Bonjour, c'est Axel de Tarlé. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Réaction en ordre dispersé après les annonces de Gabriel Attal hier soir, puisque d'un côté, le leader du mouvement, Jérôme Bail, a annoncé mettre fin au blocage, mais de l'autre, la FNSEA appelle à poursuivre le mouvement et les jeunes agriculteurs appellent même au blocus de Paris dès demain soir. Comment ont été reçues les annonces de Gabriel Attal? Pour son premier grand test politique, le Premier ministre a-t-il plutôt convaincu ou plutôt déçu? Quelle est la méthode Attal? Et puis sur le fond, faut-il ralentir la transition écologique pour ne pas étouffer nos agriculteurs? Politiquement, le Rassemblement national peut-il profiter de cette colère agricole? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Attal a-t-il convaincu ?». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Gilles Bornstein, vous êtes éditorialiste politique à France Info TV, Alexandra Schwarzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération. Je cite votre édito en une de votre journal aujourd'hui, « Colère des agriculteurs, Attal, le baptême du foin ». Anne-Charlène Bézina, vous êtes constitutionnaliste, politologue, maître de conférences en droit public à l'Université de Rouen et à Sciences Po. Et enfin, Nicolas Bouzou, vous êtes économiste, directeur fondateur d'Asterès. Vous êtes chroniqueur à L'Express et à Europe 1. Et je cite votre livre à paraître la semaine prochaine, « La civilisation de la peur », c'est chez Ixo Édition. Merci de participer à cette émission en direct. Gilles Bornstein, d'abord, on parle du baptême du foin, pour reprendre l'expression de Libération. Hier, on a vu Gabriel Attal. Qu'en avez-vous pensé? Donc, il s'est invité chez un agriculteur en Haute-Garonne, dans le village précisément d'où est partie la colère, le village de Montastruc. Voilà. Et on le voit avec le micro et ses notes posées sur une botte de foin.
Oui, c'est ce qu'on a tous remarqué, effectivement. Et de ce point de vue-là, le titre de Libé aujourd'hui est, comme souvent, assez génial. « Baptême du foin ». Ce n'était pas très facile pour le Premier ministre, parce que d'abord, on peut difficilement, en 3 jours de réflexion et quelques mots et quelques mesures, réparer des décennies de mépris ou de relégation du monde agricole. En plus, on ne peut pas dire que c'est sa spécialité. C'est plutôt Attal des villes qu'Attal des champs.
C'est Dominique Bussereau qui avait dit que c'est plus un rat des villes qu'un rat des champs.
Voilà, et un de nos confrères de la presse suisse a dit jusqu'à présent son périmètre se cantonnait à 2 arrondissements de Paris, ce qui est évidemment exagéré et caricatural. Il n'est pas faux de dire que ce n'est pas quelque chose sur lequel il avait réfléchi pendant des années. Sur la com, il s'en est bien tiré. C'est vrai que cette mise en scène était peut-être un tout petit chouïa exagéré, mais enfin, c'était quand même pas mal vu.
Tout ça est très préparé, en fait.
J'imagine. En tout cas, la ferme, je ne sais pas, parce que la ferme, je sais que ça a été décidé le jour même, que Matignon a visité une dizaine de fermes et que celle sur laquelle ils se sont mis d'accord, l'éleveur a été appelé le matin même et il pensait que c'était un joke. Il pensait pas que c'était
une blague.
Il pensait que c'était une blague et il a fini par se rendre compte que c'était vrai, qu'il avait vraiment quelqu'un de Matignon au bout du fil qui lui proposait que le Premier ministre arrive le soir. Moi, je trouve qu'il s'en est pas si mal tiré que ça. Le discours était pas mal fait. Après, est-ce que ça suffira à faire rentrer tout le monde dans les fermes? Je n'en sais rien. On a senti hier un certain... En fait, il y a 3/3. Il y a 1/3 de gens qui ne sont pas contents du tout, qui veulent continuer. 1/3 de gens qui disent, comme Jérôme Bail, OK, il nous a entendus, on rentre chez moi. Puis 1/3 qui ne savaient pas trop. On a senti hier un certain désarroi. Oui, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On voit qu'il y a des gens...
Signe de quoi, ça, d'ailleurs, ces réactions en ordre dispersé dans le monde agricole et parmi les syndicats, même?
C'est le signe que, justement, il y a pas de... C'est un mouvement qui est parti de la base, qui est parti sans la FNSEA, certains disent même contre la FNSEA, avec, comme dans le monde, comme dans les syndicats salariés, des concurrences entre syndicats, et comme dans d'autres conflits sociaux, des mouvements qui arrivent de la base et qui se font contre l'avis des centrales syndicales, et des gens qui n'étaient finalement pas habitués à ce qu'on leur réponde aussi vite. Ils ont demandé une réponse rapide, ils ont eu une réponse rapide, un certain nombre de points ont été traités, et finalement, on a senti des gens qui ne savaient pas s'ils voyaient le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, et les prochains jours, même les prochaines heures, je sais que Gabriel Attal essayait de monter cet après-midi un rendez-vous à Matignon avec Arnaud Rousseau. Arnaud, c'est bien ça?
Le patron de la FNSEA.
Avec Arnaud Rousseau, quand je suis arrivé sur le plateau, je ne savais pas s'il avait réussi à le voir. Et donc,
qui appelle à poursuivre la grève.
Appelle à poursuivre la grève. Donc voilà, des gens qui ne savent pas si... s'ils sont contents ou pas contents.
Anne-Charlotte Bézina, c'est vrai qu'on l'attendait, Gabriel Attal, comme le disait Gilles Bornstein, c'est plus un rat des villes qu'un rat des champs, hein, pour reprendre l'expression. Qu'en avez-vous pensé? Alors, sur la méthode, il l'a décrite, sa propre méthode. Il a dit, ma méthode est claire, elle n'a pas changé. Poser le constat, dire la vérité et agir sans tarder. Ça, c'est ce que soulignait à l'instant Gilles Bornstein. Hein. Les agriculteurs ne s'attendaient peut-être pas à une réaction aussi rapide.
En effet, agir sans tarder, c'est vrai que c'est là-dessus, à mon avis, que l'essentiel de ce qui va être les problèmes du futur de Gabriel Attal va se cristalliser. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'annonces. La Macronie, c'est un peu toute cette novlangue avec beaucoup de choses annoncées et pas toujours des résultats. C'est en tout cas là-dessus que les Français ont beaucoup d'attentes. Donc, je crois qu'en effet, cette méthode ne peut en tout cas qu'être saluée pour l'avenir proche. Sur le style, il ne faut pas oublier quand même qu'on a une longue histoire de conflits agricole, 1907, le Midi Rouge, toute la Troisième République très marquée par les conflits de ce monde-là, hein, qui fait vraiment partie de notre histoire française. Donc il faut faire attention à la manière dont on parle à ce monde-là, qui est représentatif de notre exception française. Et donc je crois que de la part du gouvernement, il y a eu aussi une envie d'aller plus dans la proximité que dans d'autres mouvements sociaux. Alors, il y a une question à se poser d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un mouvement social ou pas? Mais en tout cas, ça peut être le terreau fertile, sans vouloir faire trop de jeux de mots agricoles, mais c'est le terreau de beaucoup de contestations. Donc, essayer d'être dans la proximité, c'était pas si inintelligent parce que précisément...
Peut-être il l'a été hier dans la proximité, vous l'avez trouvé en empathie avec les agriculteurs, sachant écouter leurs problématiques et montrer qu'ils les avaient compris.
Je trouve que le discours est en effet celui-ci maintenant. Alors peut-être aussi que Emmanuel Macron et son ancienne première ministre ont été illustrés par une certaine dureté de leur discours. Je pense notamment même aux Gilets jaunes, à la réforme des retraites, où on a reproché au gouvernement de ne jamais... en quelque sorte être à l'écoute et d'être toujours sur des lignes dures. Ici, on voit bien que on change finalement. On est un petit peu plus dans l'idée d'être dans l'empathie, d'être dans la proximité.
On n'est pas droit dans ses bottes.
On n'est pas droit dans ses bottes. Et je crois justement que l'idée de la mise en scène du foin, c'est un petit peu celle-ci, c'est-à-dire de proposer l'idée de la proximité, de montrer à quel point, quand même Gabriel Attal qui nous dit « j'ai reçu votre message 5 sur 5 ». On est un peu dans le sans-filtre qu'Emmanuel Macron avait voulu après les conventions citoyennes. Alors, on en parlait en préliminaire, justement, les résultats, c'est là-dessus qu'il va vraiment être attendu. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a un monde agricole un peu divisé, parce qu'il faudrait faire attention à ce que ça ne soit pas que de la communication. C'est vraiment là-dessus qu'on va le voir. Mais sinon, voilà, un grand oral des champs qui a été quand même assez à saluer, je pense.
Alors, Alexandra Schwarzbrod, ce baptême du foin, pour reprendre votre expression, a-t-il été, de votre point de vue, réussi ?
Pour une première sortie publique dans un moment de tension pareil, il s'est franchement pas trop mal débrouillé sur la forme. Sur la forme, hein. Il a mouillé la chemise, il est allé au contact, il a pas fait son discours en surplomb dans son bureau. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et je pense que ça a dû toucher certains. Il leur a dit, en gros, vous comptez et vous allez être pris en compte. Le problème, c'est que son discours était aussi une façon était un retour en arrière terrible sur le fond, parce qu'en fait, il revenait à s'asseoir quasiment sur toutes les avancées environnementales qui ont été faites ces derniers temps, parce qu'en gros, toutes les normes dont se plaignent les agriculteurs, c'est beaucoup de normes environnementales, parce qu'il faut faire quelque chose, hein. On voit bien que si on veut que notre
préserver
monde actuel soit vivable. Si on veut pouvoir encore vivre de la terre, il faut faire quelque chose. Il faut travailler avec la nature et non pas contre. Or là, il a semblé faire revenir en arrière sur tout un tas de décisions environnementales. Il leur a bien dit, et ça c'est... Alors évidemment, il voulait... C'était important dans cette première prise de parole de montrer qu'il les avait entendus, mais quand il leur dit « vous êtes au-dessus de tout », et il l'a répété plusieurs fois, « vous êtes au-dessus de tout ».
Vous avez entendu quoi ?
Ben, ça veut dire vous êtes au-dessus
de l'environnement,
des écolos. Enfin, quand je dis les écolos, ça peut paraître péjoratif parce que justement, c'est comme ça que tout le monde, que
on présente ça à un match agriculteur contre écologiste.
Alors que c'est le contraire qu'il faut justement. Et c'est ça le drame, c'est que en voulant parler aux agriculteurs, en voulant leur dire qu'ils ont été entendus, eh bien finalement, il détruit aussi, il prend le risque de détruire des mois, des années de travail pour essayer de faire en sorte que les agriculteurs travaillent en bonne entente avec ceux qui veulent préserver la nature. Et ça, c'est gravissime, c'est un vrai, vrai problème. Par ailleurs, il est clair qu'il ne pouvait, de toute façon, il le sait très bien, il ne pouvait pas satisfaire tout le monde. Parce que, comme vous l'avez dit, le monde agricole, c'est plusieurs mondes. Hein. Vous avez les gros céréaliers, vous avez les petites exploitations, vous avez les viticulteurs, vous avez les éleveurs de bovins. Et on a bien vu, d'ailleurs, que certains étaient satisfaits hier, mais les viticulteurs du Sud, par exemple, eux, les haies, le problème des haies, ils n'en ont absolument rien à faire et ils ont l'impression qu'ils n'ont rien obtenu. Donc, ça va être très, très difficile, très, très difficile. Il a amorcé, comme il l'a dit, c'est un début, c'est le début d'un sursaut, il a dit à un moment. Et tout le monde a entendu, c'est un début. Je pense que c'est un début qu'il n'a pas trop mal réussi sur la forme.
Parce que Jérôme Bayle, c'est vrai, immédiatement derrière, a dit, on a obtenu tout ce qu'on voulait, qui est à l'origine du mouvement. On arrête, on lève les blocages. Les manifestants... Il a dû boire du petit lait, là, Gabriel.
Ah oui, tout à fait. Mais il a eu le talent, Gabriel Attal, de le traiter personnellement, d'entretenir une relation. Enfin, vraiment, il a bossé. Et donc, on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et malheureusement, ça lui est beaucoup reproché aujourd'hui.
C'est vrai que hier, dans le 20h, il y avait ce sujet, le discours de Gabriel Attal. Et derrière, on tend le micro à Jérôme Bayle qui avait envie d'applaudir le Premier ministre. On a l'impression qu'il avait été marabouté.
Il a dit, j'avais parlé au Premier ministre cette semaine, je lui ai demandé trois choses, j'ai eu les deux, donc je lève, je n'ai qu'une parole, je lève. Alors effectivement, on lui a demandé trois choses, on sait que la FNSE en avait demandé 40, je crois, c'est ça. Après, c'est vrai que les attaques dont a été victime Jérôme Bayle sur Twitter, enfin sur X aujourd'hui, sont absolument scandaleuses. Cette scène où on le voit donner un petit papier à Christophe Béchu.
Et où, alors, quoi ces attaques? Moi, je ne les ai pas vues.
Eh bien, pendant.
Twitter, on lui scène, reproche.
Sur une scène, sur le plan. Quand Gabriel Attal parlait, sur le plan large, il était assis à côté de Christophe Béchu et de Marc Fesneau. Et on lui voit donner un petit papier à Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Et la twittosphère, enfin, une partie de la twittosphère a dit il est en train de donner son RIB.
Ah ouais. Ouais,
il a été acheté. Lui s'est expliqué là-dessus en disant pas du tout, je donnais le numéro de téléphone d'une dame qui m'avait dit qu'elle avait des difficultés particulières et qui demandait de voir si le gouvernement pouvait pas faire quelque chose. En même temps, il a dit, en s'expliquant, il a dit « j'ai refusé un poste ». Alors on ne sait pas à quel poste il lui a été proposé, on ne sait pas de quoi il parle. C'est vrai que c'était assez maladroit parce que certains ont accrédité l'idée que le gouvernement, avait essayé de l'acheter. Mais ça, enfin,
on rappelle son profil, hein, donc c'est son père qui s'est suicidé, qui est agriculteur.
Exactement.
Des souffrances du monde agricole.
Mais ça illustre, ce pas de deux avec Jérôme Bayle, illustre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas vraiment de représentants et que chacun, Gabriel Attal a essayé de négocier avec lui. D'un autre côté, il y a les confédérations nationales, il y a les syndicats sur place. Et pour l'instant, on n'arrive pas à avoir une unité de tout ça.
Alors, Nicolas Bouzou, question téléspectateur. Les agriculteurs ont vite obtenu des résultats et sans avoir affaire aux forces de l'ordre. Parce que c'est vrai que Gérald Darmanin l'a dit, hein, on laisse faire, hein, alors qu'il y a eu des scènes un peu violentes. Il y a eu des préfectures qui ont été attaquées, un Leclerc qui s'est effondré sous le poids du lisier jeté par les agriculteurs. Je termine la question, téléspectateurs. Quel est leur secret?
Il y a plusieurs choses. Alors, la première chose, c'est que le mouvement est très populaire. De toute façon, plus de 80% des Français.
89%.
89%, donc c'est absolument colossal. Mais sur le fond, je pense qu'un certain nombre de demandes des agriculteurs sont des demandes qui sont très justifiées sur le fond et auxquelles on pourrait répondre relativement facilement. Je reviens sur cette affaire des haies dont on a beaucoup parlé dans la semaine, mais c'est très intéressant.
Donc, il y a 14 normes pour faire une haie.
Moi, j'interviens beaucoup dans les coopératives agricoles et vous savez, c'est intéressant parce qu'il y a des choses souterraines dont on vous parle qu'on ne voit pas dans les villes et on vous parle beaucoup des haies et des loups.
Voilà. Dans le monde agricole.
Dans le monde agricole, voilà, parce que les loups, il y en a, et ça crée des difficultés, ça peut tuer des animaux, mais ça crée du stress chez les autres animaux, donc c'est un vrai sujet, et c'est évidemment, on le comprend, très difficile, très compliqué de tuer un loup, il faut des autorisations, etc. Et les haies, tout le monde est absolument d'accord pour dire qu'il faut des haies. C'est très important pour la biodiversité, c'est très important pour les oiseaux. Le problème, c'est qu'à force de normer les haies, du coup, vous avez plein d'agriculteurs qui disent « moi, j'en fais pas ». Vous voyez, donc ce sont ces injonctions contradictoires, si vous voulez, c'est, par exemple, donc faites des haies, mais c'est tellement compliqué qu'on vous dissuade d'en faire, qui rendent la vie très compliquée pour les agriculteurs. Et je crois que le Premier ministre est arrivé avec une idée centrale qui était quand même la bonne sur le fond, et je crois qu'il l'a dit quasiment dans ces termes, c'est-à-dire, je ne suis pas là pour vous expliquer comment travailler, mais je suis là pour vous permettre de travailler. Et en fait, dans le malaise des agriculteurs, enfin, qui n'est pas nouveau, hein. Il y a des protestations, des mouvements sociaux, c'est la règle d'ailleurs, qu'il est très difficile d'anticiper, mais celui-là, non. Enfin, franchement, celui-là, il couve depuis longtemps. En plus, la France est l'un des derniers pays dans lequel il arrive, donc vraiment, on a eu le temps de le voir venir. Mais là encore, quand on en parle aux agriculteurs, il y a souvent cette idée selon laquelle... alors, les Parisiens, la presse, les experts, enfin, tout le monde leur explique comment ils doivent travailler, alors que personne ne sait, et on peut comprendre que c'est très pénible d'avoir l'impression d'entendre ça à longueur de journée. Donc je pense que le Premier ministre a été clair là-dessus. Après, pour moi...
De ce point de vue, il n'est pas très... Parce que souvent, Emmanuel Macron, il lui est reproché. Oui, dès qu'il y a un boulanger, comment faire du pain ? Gabriel Attal est beaucoup plus dans l'humilité et dans j'écoute.
Alors je ne sais pas si c'est conscient pour compléter, je dirais, le président de la République, ou si c'est inconscient. Mais en revanche, la principale difficulté, me semble-t-il, c'est même pas l'efficacité, c'est avant... C'est-à-dire, est-ce que ces mesures seront appliquées ? Parce que, en fait, le vrai problème des politiques publiques en France, c'est qu'il y a énormément d'annonces, mais beaucoup des annonces, quand vous regardez les choses très concrètement, un an après, vous n'avez pas les décrets, vous n'avez pas les directives. Ouais. Et ça aussi, ça peut rendre fou des professions.
Gilles Bornstein, juste un mot sur la forme. Gabriel Attal est perçu comme maîtrisant bien l'art du verbe. Il paraît que Nicolas Sarkozy lui a dit « La politique, c'est aussi faire de beaux discours ». Ce discours-là, ces notes qui ont... En fait, c'était écrit, son discours. C'est lui, vous l'avez, hein. Oui. C'est lui qui l'écrit.
Je ne pense pas que ça soit...
Les formules.
D'abord pour des raisons de temps, parce que depuis qu'il est nommé, on a vu partout où il se vantait de pouvoir dormir 4 heures par nuit. Franchement, je pense qu'il n'a pas le temps de prendre son petit clavier et de taper des discours. On sait que les arbitrages ont été rendus jusqu'au dernier moment. Par exemple, la mesure principale qui est l'annulation purement et simplement de la hausse du GNL.
De la taxe sur le...
La taxe sur... qui avait été quand même
discutée
entre Bruno Le Maire et la FNSEA. Donc c'est quand même une décision majeure. À ma connaissance, ça n'a été arbitré qu'au moment du déjeuner, ou en tout cas dans la journée... Dans la journée de vendredi, c'est-à-dire juste avant qu'il ne décolle pour aller à Blagnac. Donc oui, je pense qu'il a forcément, il a une plume qui lui écrit des discours. D'ailleurs, nous, journalistes, on a souvent les discours, ils sont bien écrits. Là, on voit que c'est une ébauche encore assez approximative. Ils n'ont pas eu le temps de peaufiner totalement le discours. Puis-je dire un mot de ce que vous avez dit sur le maintien de l'ordre et sur qu'il arrive sans violence ? Il y a eu une polémique parce que le ministre de l'Intérieur, enfin une polémique, un début de débat parce qu'il
a dit « je laisse faire ».
Il a dit « je laisse faire ». Le président de la République et moi avons décidé de laisser faire et contestant le fait qu'il y ait deux poids, deux mesures. Les cellules de vrai ou faux de France Télévisions ont travaillé là-dessus et je voulais vous dire un certain nombre de choses. Quand il dit, par exemple, en mai dernier, sur l'autoroute A13, eh bien, des militants écolos ont bloqué l'autoroute, exactement comme les tracteurs ont bloqué l'autoroute. Là, il a dit, y a pas de problème, la gendarmerie nationale a fait état de perturbation et a sécurisé les lieux. Et l'autre fois, c'était en mai, le préfet a dénoncé une action irresponsable et a décidé de saisir le procureur de la République pour entamer des suites judiciaires. Donc, je trouve un petit peu insuffisant quand le ministre de l'Intérieur dit il n'y a pas deux poids, deux mesures. Si, il y a d'une certaine manière deux poids, deux mesures. Et quand il y a, j'arrête après, quand il y a des destructions, à Agen, là, il a dit il n'y a pas de problème. Et la même fois à Saint-Nazaire, ceux qui avaient été coupables de ces destructions avaient été condamnés à une amende de près de 25 000 euros et des travaux d'intérêt généraux pour 2 ans d'entre eux. Donc, voilà, on peut quand même penser que tous ne sont pas traités de la même manière.
Anne-Charlène Bézina, votre regard, vous qui êtes une spécialiste du droit sur ce deux poids, deux mesures. Alors, d'un autre côté, est-ce qu'ils sont protégés par leur popularité, les agriculteurs ? 89% des Français les soutiennent. Ou est-ce que, comme certains le disent proche du gouvernement, contrairement à certains activistes, ils ne s'attaquent pas aux forces de l'ordre ?
Alors, il y a sûrement un peu de ça, mais rappelons aussi peut-être qu'il y a des intérêts de la part du gouvernement que les agriculteurs servent un peu indirectement. On a beaucoup entendu parler de la norme dans cette crise agricole et de la multiplication des normes. Et rappelez-vous que dans la conférence de presse du président de la République, on a entendu parler de simplification.
Choc de simplification.
Choc de simplification sans arrêt. On a entendu parler d'efficacité, de proximité, de terrain. Ils ont, quelques semaines plus tard, l'occasion d'illustrer tout ça. Donc, au fond, il y a un risque, et justement, je pense que c'est pour ça que les agriculteurs sont aussi un peu dans l'expectative, il y a un risque qu'ils aient servi d'illustration à cette nouvelle phraséologie. Mais encore une fois, je vous rejoins, les résultats. Il faudra voir ce que ça va donner. J'ajoute quand même que les politiques ont ici, on a parlé de cette personne qui a été un petit peu instrumentalisée, mais ils ont ici des têtes finalement à qui on peut parler, ce qui était un petit peu ce qui manquait pour les Gilets jaunes. Et cette idée, c'est aussi pour eux de montrer qu'enfin ils ont un interlocuteur et qu'ils vont donc en quelque sorte un petit peu le chérir. Et il ne faut pas oublier qu'il y a finalement une personnification qui se joue aussi dans ces conflits-là. Par exemple, Edith Cresson a été très très largement affaiblie par la crise avec les agriculteurs, puisque elle n'a pas réussi à se départir de son image de rat des villes, justement. Et en fait, il y avait eu une querelle de personnes, c'est-à-dire que les agriculteurs ne supportaient plus de dialoguer avec elle. Et là, Gabriel Attal, au moins, parvient un petit peu à créer le dialogue, à trouver des personnes avec qui il va pouvoir discuter, et il n'est pas irritable sur ce terrain-là. En tout cas, il n'est pas un irritant avec ceux avec qui
il utilise son capital de popularité, sympathie,
en quelque sorte, pour le moment. Et peut-être, dernier point, vous avez parlé de l'opposition entre l'environnement et les normes agricoles. C'est vraiment ça, le conflit des prochaines années. Et Gabriel Attal a été aussi un petit peu malin en le court-circuitant dès le départ, en disant « je ne crois pas au fait qu'il va falloir opposer l'un et l'autre ». Donc, vous savez que c'est un peu la phraséologie du macronisme, ça, d'être sur deux jambes. Donc, il va falloir justement être à la fois sur l'environnement et sur l'agriculture. Et j'ajoute qu'il va être entre Paris et Bruxelles, parce que c'est vraiment ça la grande difficulté de ce qu'il a porté comme mesure hier, c'est de défendre ça aussi au Parlement européen, parce que rappelons que les élections européennes arrivent et que l'une des premières politiques publiques qui est financée et qui est gérée directement par l'Union européenne,
c'est la politique agricole.
Donc il va falloir être probant sur ces questions aussi.
Alors, Gabriel Attal a-t-il répondu à la colère du monde agricole? Ses annonces sur la suppression de la hausse de la taxe sur le GNR ou la simplification administrative n'ont convaincu qu'une poignée de manifestants. Les principaux syndicats ont en effet annoncé dès hier soir la poursuite du mouvement. Sujet de Magali Lacroze et Ilana Azinko.
Certains ont pris la route tôt ce matin vers Paris et son aéroport de Roissy. D'autres maintiennent les points de blocage routier. Il en reste 38 ce samedi, comme ici, dans le Lot-et-Garonne.
Je pense que c'est à la fois à Bruxelles, puisque c'est eux qui dirigent, qui ont la main sur l'agriculture, la politique agricole commune. Et je ne pense pas que ça soit qu'une solution à Paris. Ça peut être une étape, mais je pense que le but, c'est d'aller à Bruxelles.
Alors, le Premier ministre a-t-il convaincu les agriculteurs hier? En partie, mais pas vraiment, et certains plus que d'autres. À son arrivée dans le Sud-Ouest, Gabriel Attal est accueilli par l'une des figures de la contestation, à la casquette jaune, Jérôme Bayle. Visiblement plutôt satisfait des annonces, notamment sur la suppression de la taxe sur le gazole non routier, la simplification et les aides d'urgence.
Produire et protéger, vous laisser respirer. Et vivre de votre travail, être derrière vous à fond, c'est les trois mots d'ordre que je suis venu défendre devant vous aujourd'hui, parce que la France sans agriculture, ça n'est plus la France. Parce qu'être agriculteur, c'est résister aux pressions, aux contraintes, au travail continu, parce que le débat public ces dernières années a laissé trop de voix s'élever pour remettre en question ce que vous êtes et ce que vous faites. Pour vous prouver que je suis motivé pour que ce travail porte ses fruits, ça commence dès aujourd'hui. Et dès aujourd'hui, je décide de 10 mesures de simplification immédiates que je prends immédiatement, je le prendrai par décret pour la plupart, à partir de demain.
À ce moment-là, cela semblait plutôt gagné pour le Premier ministre. Mais quelques heures plus tard, un peu partout en France, les doutes se font entendre, la colère gronde encore.
Vous continuez à bêner, hein, parce que ça, de toute façon, vous n'allez pas revenir dans vos fermes avec tout ça. Hein. Hors de question, hors de question. Donc on va tout vider, hein, bien sûr.
Le mouvement ne s'arrêtera pas. Le président du principal syndicat agricole l'annonce le même soir, aux 20h de TF1.
Nous avons pris la décision de poursuivre cette mobilisation. C'est une décision difficile mais nécessaire parce que les annonces du Premier ministre ne répondent pas à la totalité des questions que nous nous posons. On appelle encore une fois à ne pas utiliser la violence, à ne pas déraper parce que je crois qu'on n'est pas là pour ennuyer les Français.
Et si le mouvement échappait au syndicat ? Inquiétude hier soir à Nîmes, où le bureau des douanes est incendié. Mais ce matin, la plupart des barrages a été levé jusqu'à la fin du week-end.
Ce qui va être mis en place la semaine prochaine sera beaucoup plus fin et beaucoup plus fort. L'idée étant qu'il n'y ait aucun camion qui puisse approvisionner la capitale et que, s'il le faut, on tienne aussi longtemps que nécessaire, en tout cas toute la semaine prochaine, de manière à ce que les pénuries puissent se faire sentir et que nous nous fassions entendre.
Ces derniers jours, tous les dirigeants politiques de l'opposition, sans exception, se sont affichés aux côtés des agriculteurs sur les points de barrage. Le candidat de la droite aux européennes en a même profité pour lancer officiellement sa campagne, moquant les annonces du Premier ministre.
Ici, on est tout près de la Belgique, et pourtant, ce n'est pas les mêmes règles, alors que c'est le même marché. Ça ne peut pas continuer comme ça.
De droite à gauche et aux extrêmes, la critique du gouvernement est unanime.
Ceux qui nourrissent le pays doivent pouvoir vivre de leur travail. Les annonces d'Attal n'y changeront rien.
Les annonces à court terme d'un Premier ministre dépassé par l'ampleur de la crise ne répondent ni aux enjeux ni aux attentes des agriculteurs.
Reçu à Matignon quelques heures avant les annonces, les écologistes refusent d'endosser le rôle d'ennemis des agriculteurs.
On a pu énumérer un certain nombre de propositions qui sont importantes pour les agriculteurs et qui sont importantes pour les écologistes. Nous avons beaucoup en commun et on a pu d'ailleurs rappeler à Gabriel Attal que ce n'était pas la peine de nous montrer du doigt en disant que c'était nous le problème.
Ce soir, les agriculteurs du Lot-et-Garonne menacent de bloquer le marché de Rungis dès lundi matin.
Alexandra Schwarzbrod, le marché de Rungis, c'est le plus grand marché d'Europe, hein, je crois. Si effectivement le mouvement venait à se durcir avec blocus de Paris, jusqu'à quand Gérald Darmanin pourrait-il tenir la ligne ? Je laisse faire.
Ah bah, pas éternellement, ça c'est clair. Hein, à partir du moment où la vie... D'abord, si la France est totalement bloquée, la cohésion, enfin les Français vont beaucoup moins soutenir le mouvement. Il y a un moment, si vous voulez, là on est dans une colère, l'éruption d'une colère. Donc tout le monde comprend, parce que tout le monde comprend les problèmes de base des agriculteurs, enfin d'une partie des agriculteurs. Mais à partir du moment où la vie va commencer à être compliquée, où l'approvisionnement va être compliqué, où la sortie ou l'entrée dans les grandes villes va devenir compliquée, notamment dans Paris, là, peut-être que le mouvement suscitera beaucoup moins de sympathie. Et Gérald Darmanin, s'il commence à y avoir de la violence, parce qu'à partir du moment où vous bloquez un endroit, ça peut susciter de la violence, des gens qui se révoltent, qui ne sont pas d'accord, là, il ne pourra pas rester les bras croisés. Donc là, ça va être un bon test pour Gérald Darmanin, parce que, en effet, c'est assez scandaleux quand même ce à quoi on a assisté. Moi, je suis d'accord. Il y a vraiment un deux poids, deux mesures.
Alors, ce que dit Yannick Jadot, si les écologistes seraient en prison pour s'ils se comportaient de la même façon.
Oui, enfin, on a assisté ces derniers mois, ces dernières années, à une. On a bien vu que ce gouvernement pointait du doigt les écologistes comme des quasiment. Enfin, on a même parlé d'éco-terroristes. Là, les agriculteurs, non, rien. Rien, on les accompagne en douceur sur les blocages. Donc c'est vrai que le drame de ce conflit qui peut s'entendre sur le fond, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il a un vrai sens ce conflit. Et ce qui est terrible, c'est qu'il était, vous l'avez dit, on aurait pu l'anticiper. On savait que ça allait arriver. Ça fait combien de temps qu'on entend qu'on entend parler des suicides d'agriculteurs ? C'était écrit que ça allait exploser à un moment. Le problème, c'est que vu la façon dont ça se passe et ça risque d'évoluer, c'est que ça va créer une vraie scission dans la société entre agriculteurs d'un côté, écologistes de l'autre. Et ça, franchement, en ce moment, la société n'en a absolument pas besoin.
Gilles Banchin, est-ce que politiquement peut naître un courant anti-normes. Je vous dis ça parce que Laurent Wauquiez, dans son interview au Parisien vendredi, il critiquait le Conseil constitutionnel qui empêche de faire ce qu'on veut en matière d'immigration. Il a eu aussi une petite gifle contre les normes agricoles, je le cite, au sujet des normes agricoles. De toute façon, ce ne sont plus les Français qui décident. Ça ouvre la voie à une colère démocratique profonde, toutes ces normes.
Bah là, il rassemble les deux. Enfin, il rassemble à la fois la décision du Conseil constitutionnel et les normes.
Et Bruxelles.
Et Bruxelles.
Qui nous empêche de bien vivre.
qui, en fait, qui nous, voilà, c'est un conflit de légitimité qui nous empêche de gouverner. Laurent Wauquiez, et en cela, il se rapproche de plus en plus des populistes européens et du Rassemblement national, Laurent Wauquiez considère que la souveraineté doit être totale et que les députés élus par le peuple doivent avoir le droit de tout faire. Et qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir du Conseil constitutionnel, qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir sur les normes, et que rien ne doit pouvoir empêcher le législateur de faire ce qu'il veut. C'est une conception que moi, je ne trouve pas.
Déjà, il a contesté le zéro artificiel net. Vous savez, cette idée qu'il faut arrêter d'artificialiser les sols. Il a dit, moi, je ne l'appliquerai pas.
Tout ce qui, pour lui, confine à un contre-pouvoir ou à, effectivement, une difficulté administrative va... C'est ce qu'il pense, contre la volonté du peuple, et donc n'a pas lieu d'être. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'une démocratie moderne, ça fonctionne comme ça. Mais oui, pour répondre à votre question, en tout cas, c'est ce qu'il essaye de faire politiquement dans la société française. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Quand je vois ces taux de popularité, j'ai envie de dire que ça ne marche pas. Mais, enfin, à l'évidence, ce mouvement-là pèse plus dans la société française que les pronostics électoraux dont est crédité Laurent Wauquiez. Mais oui, il essaye, c'est ce qu'il essaye.
Anne-Charlène Bézina, question téléspectateur. Paul, dans le Loir-et-Cher. Que peut offrir Gabriel Attal de plus aux agriculteurs qui, visiblement, ne trouvent que le compte n'est pas bon pour certains? Ce matin, Marc Fesneau sur France Inter a eu des mots très durs contre la grande distribution. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il a cité Leclerc. En accusant, au fond, la grande distribution, et donc Michel-Édouard Leclerc, d'étouffer les agriculteurs en leur imposant des prix trop bas. Pourtant, le gouvernement a fait une fameuse loi, la loi Egalim, qui garantit des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. Donc la loi ne fonctionne pas.
Au fond, ce que peut offrir le gouvernement de plus, et c'est vrai, assez contraint. Parce qu'on a une situation qui, en ce moment, est très difficile à vivre pour tout le monde. Une crise de l'écologie, une crise économique et cette crise agricole. Et les trois ne vont pas dans les mêmes intérêts, dans le même sens, en réalité. Donc, dès lors qu'on veut lutter contre l'inflation, on va plutôt avoir tendance à vouloir baisser les prix et donc, finalement, un peu rémunérer le travail des agriculteurs. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que... ici, on a eu une réponse groupée, finalement. On a eu le ministre des Comptes publics et le ministre de l'Agriculture qui ont travaillé ensemble. Mais il y aura des limites à ça. Et en effet, le gouvernement ne peut pas imposer beaucoup de choses de plus, à part peut-être des sanctions. C'est là-dessus que Bruno Le Maire s'est illustré récemment. Et c'est vrai que c'est un des points de la loi Egalim qui est assez peu appliqué, et comme beaucoup de nos lois, en réalité, sur le terrain de la sanction, sur le terrain administratif, dès lors qu'il faut l'appliquer, eh bien, il y a un petit peu moins de monde. Donc je crois que... D'ailleurs, on le sait peu, mais la loi dite Egalim 3, qui est de l'année dernière, est encore, pour certaines de ces dispositions, en phase dite d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore complètement tout appliqué. Donc je crois qu'il y a de l'immédiateté qui est demandée, en tout cas, par la population agricole, c'est-à-dire du résultat, qu'on soit à leur côté. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que les ministres peuvent offrir de plus immédiat. Il y a quand même quelque chose dont on parle... vraiment ces derniers temps, et vous parliez du conflit de la norme, il y a la question de savoir comment on va pouvoir faire pour être cohérent entre le niveau français et le niveau européen. Parce que ça, c'est aussi l'avenir en matière écologique, et il y a beaucoup de questions.
Mais ça encore, qu'il ait fallu attendre hier pour taper du poing sur la table et mettre des sanctions et poser des sanctions sur des groupes industriels qui exagéraient, je trouve que c'est...
Ils sont dans la loi, hein, d'ailleurs.
C'est dingue. C'est dingue que ça n'est... Enfin, voilà, ils le savaient. C'était
le ton martial.
Et il a fallu attendre le dernier moment pour le faire.
Nicolas Bouzou, c'est vrai. Est-ce qu'il faut s'interroger quand on voit les agriculteurs qui disent avoir leurs revenus qui baissent, et quand on voit un groupe comme Unilever qui transforme cette matière agricole pour en faire des produits que nous achetons en supermarché, annoncer des profits en hausse de 26% à 7,7 milliards d'euros. Est-ce que...
Alors quand on regarde depuis que l'inflation a commencé, donc depuis 2 ans grosso modo, quand on regarde les profits dans l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'agroalimentaire, en fait, on voit que ça a explosé au niveau des gros industriels. Donc là, il y a vraiment une explosion des profits, donc très clairement, il y a des grands groupes qui ont bénéficié de cette...
Ils ont augmenté les prix.
Ils ont augmenté les prix plus que les...
Au-delà.
Voilà, exactement. Après, les lois Egalim, il y en a trois en fait... C'est très complexe, hein. C'est le charme de la France, hein, quand on essaie de creuser ça. Déjà, il y en a trois. Ce sont des lois qui encadrent les promotions, qui les interdisent parfois. Ce sont des lois qui interdisent aux industriels de négocier les prix qui sont proposés par l'agriculteur sur des matières premières.
L'agriculteur, il doit arriver. D'ailleurs, Monsieur Leclerc, c'est temps.
C'est ça ou c'est rien, quoi. Voilà, ouais. Etc. Bon. Mais c'est un peu l'idée que je voulais faire passer tout à l'heure. C'est-à-dire que la difficulté qu'on a en France, c'est qu'on identifie un problème, on fait une loi... Et c'est terminé, puisqu'on considère que le vote de la loi résout le problème. Et en fait, non. Parce que la vie, c'est pas comme ça. Parce que entre les coopératives agricoles, certaines sont grosses en France. Hein. Vous avez des entreprises, des coopératives comme InVivo, par exemple, c'est l'un des plus gros acteurs dans le monde. Hein. Donc, mais les géants de l'agroalimentaire sont encore plus gros. Et donc, il est clair que l'esprit de la loi, si vous voulez, n'est pas toujours là. Donc, ce que peut faire de mieux le ministre de l'économie, c'est sans doute d'annoncer des sanctions, mais plus encore ce que l'on disait sur Leclerc, c'est-à-dire la pratique.
Alors était... Marc Fesneau dit, il passe par des centres, ils disent par des centrales d'achat européennes qui du coup ne sont pas sujettes à la loi française puisqu'elles sont installées par exemple, aux Pays-Bas ou en Suisse.
Je pense que la pratique la plus efficace, c'est ce qu'on appelle le name and shame. Pardonnez-moi pour le mauvais français, c'est-à-dire mettre sur la place publique quels sont ceux qui n'agissent pas dans l'esprit de la loi. C'est ce qu'a fait le ministre de l'Agriculture ce matin, et c'est une pratique qui a été institutionnalisée par le président de la République lui-même, je crois que c'était dès 2018. Alors, c'était sur un sujet un peu différent qui était les délais de paiement. Il a dit, nous donnerons le nom des entreprises qui ne...
C'est pour ça, donc, de grandes entreprises. Marc Fesneau a cité Leclerc.
C'est pour ça qu'il a pu le faire tranquillement, parce que c'est une pratique, c'est quand même très, très engageant. Il peut même d'ailleurs y avoir des sujets juridiques.
Alors, à quelques mois des élections européennes, cette colère du monde agricole incite tous les partis à se pencher sur les difficultés des agriculteurs. Et ces derniers jours, les représentants du Rassemblement national multiplient les sorties sur le terrain, à l'image de Jordan Bardella, qu'une équipe de C'est dans l'air a suivi chez un éleveur de vaches à Bordeaux. Sujet de Nicolas Bidard et Benoît Thébault.
Quand Jordan Bardella se rend à la ferme, c'est sous le feu des projecteurs. Opération communication pour le président du RN.
Non, elle est habituée.
Habituée à avoir autant de journalistes.
Pour se montrer au chevet des agriculteurs, à leur écoute.
Blonde d'Aquitaine.
Ouais.
Bazadaise.
Ouais.
Et Aubrac.
D'accord. Et vous en avez combien au total ?
370.
D'accord. La volonté de se poser en défenseur du monde agricole, en ligne de mire pour la tête de liste du Rassemblement national, les élections européennes.
Et moi, je défendrai dans le cadre des élections européennes qui auront lieu au mois de juin, l'idée de l'exception agriculturelle. C'est-à-dire, dans les accords de libre-échange, on sort l'agriculture. Parce que à chaque fois qu'on s'est ouvert depuis 15 ans, ça a été systématiquement contre les intérêts de l'agriculture française.
L'occasion aussi de désigner les responsables, selon lui, de tous les maux du monde agricole.
Je pense qu'il y a un mouvement de colère qui est en train de se lever aujourd'hui partout en Europe. Et le point commun de ce mouvement de colère, c'est l'Union européenne et l'Europe de Macron, qui veut la mort de notre agriculture. C'est la politique, c'est un peu comme l'amour, quoi. Il n'y a que les preuves qui comptent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à l'égard de nos agriculteurs, ce gouvernement n'a pas manifesté énormément de preuves d'amour depuis 2017.
Des preuves d'amour, lui, est là pour en donner. Son parti se rêve en porte-voix d'une colère paysanne. Sur les réseaux sociaux, le RN multiplie les affiches et slogans électoraux à destination du monde agricole, en condamnant par exemple l'écologie punitive. Et à l'extrême droite, il y en a un autre qui espère capter la colère des agriculteurs. Sur ses réseaux sociaux, Éric Zemmour s'affiche aux côtés d'un vigneron dans l'Hérault.
Tant qu'on considérera qu'il faut produire la laine en Nouvelle-Zélande, les pommes en Pologne, les oranges au Brésil...
Le président du parti Reconquête a même confié une mission à Marion Maréchal, se rendre à Bruxelles aux côtés d'agriculteurs manifestant contre les normes européennes.
On est en train de nous détruire progressivement, voilà.
Et vous avez raison en tout cas d'être sur le pont et ils comprennent que ça. Donc manifestez, faites-vous entendre. Merci. Et peut-être qu'enfin on aura une réaction. En tout cas, on est à vos côtés.
Merci.
Bon courage. Bloquez, faites entendre votre voix. Parce que malheureusement en France, et j'ai le sentiment en Europe, c'est le seul moyen d'être entendu et que enfin les élites parisiennes entendent ce message fondamental de la mort à petit feu de notre agriculture.
Mais l'extrême droite peut-elle convaincre cet électorat qui ne lui est pas acquis ? En 2022, dans les intentions de vote des agriculteurs, c'est le parti présidentiel qui arrivait en tête, suivi des Républicains. Et seulement en troisième et quatrième position, Reconquête et le RN. Retour en Gironde, où certains semblent séduits par le discours porté par Jordan Bardella.
C'est
C'est ça qu'il faudrait aider.
J'aurais tendance à dire qu'il y a eu peut-être un moment où j'aurais tendance à avoir à l'époque confiance en Emmanuel Macron. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, peut-être que je suis... Ça me tenterait à changer ou peut-être me poser, ça me fait peut-être me remettre en question et peut-être se poser quelques questions, effectivement. Ouais.
Patrick Bessèze, le propriétaire de l'exploitation, a lui déjà déposé un bulletin RN en 2022, à un rejet des autres partis politiques, dit-il.
Au point de vue électoral, on ne représente rien du tout, quoi. Très peu de pourcentage pour l'électorat. Alors donc, on s'occupe plus de nous, quoi.
C'est pour ça que les politiques, selon vous, ne vous écoutent pas ?
Tout à fait.
Séduire le monde agricole pour séduire la France rurale et tenter de creuser un peu plus l'écart avec le camp présidentiel.
Alors, question téléspectateur. Le vote pour l'extrême droite progresse-t-il chez les agriculteurs, Gilles Bornstein ?
Oui, les intentions de vote à l'extrême droite progressent chez les agriculteurs. Il faut dire que, contrairement à ce qu'on pense souvent, on partait d'assez bas. Les agriculteurs, traditionnellement, c'était des gens de droite, de la droite dite républicaine, LR, mais même avant, UMP, je dirais même RPR. Les agriculteurs, c'était l'US RPR. Ça porte un nom, c'est Jacques Chirac. Voilà, les agriculteurs étaient proches de Jacques Chirac, qui aimait tâter le cul des vaches, comme on disait vulgairement. Christian Jacob, ancien président de la FNSEA, a terminé, entre autres, ministre de l'agriculteur de l'agriculture de Jacques Chirac. Donc, il y avait vraiment une forte parenté. A priori, ce n'est pas vraiment des gens d'extrême droite. Ils ont besoin de l'Europe. Ils savent très bien, les agriculteurs, que la majorité de leurs revenus vient de la PAC. Donc, ils n'en tenaient pas le registre anti-européen donc du Rassemblement national.
La petite musique sur l'exception agricole française de Jordan Bardella.
Ça commence à marcher, mais historiquement, ils n'étaient pas là-dedans. C'est des gens qui ont besoin de manœuvres immigrées. Tout le monde sait que pour les vendanges, à un moment, quand on doit récolter, voilà, il y a toujours eu des immigrés dans les champs. Donc, ce n'était pas vraiment...
C'est des petits patrons, en fait.
Voilà, c'est exactement. C'est des petits patrons, ce n'est pas des ouvriers. C'est des petits patrons. Alors maintenant, c'est sûr que le RN progresse partout. Le RN avait trois problèmes électoraux, les personnes âgées. Ils progressent chez les personnes âgées. Les CSP+, ils progressent dans les CSP+, et les agriculteurs. Et c'est vrai qu'avec ce discours sur la ruralité que prend le RN, sur la préservation du mode de vie, bah, ça plaît à beaucoup de monde, dont les agriculteurs. Donc oui, ils progressent. Il ne faut pas oublier que les agriculteurs, c'est 2% du corps électoral. Donc c'est pas avec ça que ça ne suffit pas à gagner des élections. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un effet de capillarité parce que c'est la défense. Voilà, les agriculteurs défendent la ruralité et en ce moment, c'est quelque chose qui marche.
Alors, Jordan Bardella a-t-il en tête les élections européennes de juin prochain, sachant que peut-être que ça pèse que 2% des agriculteurs, mais on en parle. Il va y avoir le salon de l'agriculture, là, en février.
Non, mais hier, il y avait, après le discours d'Attal, ou ce matin, je ne sais plus, j'ai entendu un agriculteur qui disait « On a une fenêtre d'opportunité en ce moment, il ne faut pas qu'on la rate. Oui. » C'est la proximité du salon de l'agriculture qui arrive dans un mois, et c'est les européennes en juin. Et on voit bien, ils ont bien compris que là, il y avait un truc à jouer maintenant. Que s'ils avaient quelque chose à décrocher d'important, c'était maintenant qu'il fallait essayer de le décrocher. Le problème, c'est que sur quoi prospère le RN en règle générale ? Il prospère sur la colère des gens. C'est là-dessus qu'il prospère. Donc évidemment, là, il a un boulevard. Sauf que sa réponse est totalement à côté de la plaque. Et d'ailleurs, pour le coup, Gabriel Attal, hier, a taclé le RN en disant « On ne peut pas se passer de l'Europe. Vous ne pouvez pas vous passer de l'Europe. C'est 9 milliards d'euros par an. Donc c'est impossible. » Donc on voit bien que le RN est à côté de la plaque. Mais... évidemment, il a bien vu que là, il avait un boulevard dans lequel s'engouffrait pour essayer de profiter de cette colère qui est dirigée d'abord sur ceux qui sont au pouvoir ou qui ont gouverné les fois d'avant, les décennies d'avant. Donc là, le RN, il est tranquille, il peut promettre ce qu'il veut. Voilà, c'est du beurre. Donc, c'est un vrai problème. Il ne faut pas oublier non plus, et c'est ça le plus grand danger, que cette colère des agriculteurs n'est pas que française. Hein. Elle a démarré en Allemagne et aux Pays-Bas. Et en Allemagne, c'est pareil. L'AFD, le parti d'extrême droite, prospère énormément, utilise énormément cette colère pour monter dans les sondages.
Nicolas Bouzou, c'est vrai qu'aux Pays-Bas, les partis d'extrême droite sont arrivés en tête. Et dans ces partis d'extrême droite, on a même eu le parti des paysans citoyens, le BBB, qui est né de cette colère des agriculteurs néerlandais et qui a fait une percée très forte dans les sondages.
Ils sont entrés au Parlement même.
Ils sont entrés au Parlement, il y a une quinzaine de députés, les citoyens, les paysans en colère.
C'est intéressant les Pays-Bas parce que c'est une loupe très grossissante, mais des débats, des tensions entre l'agriculture et l'environnement, parce que les Pays-Bas, donc c'est un petit pays, mais très agricole, très intensif. Très intensif, énormément d'élevage. Et l'élevage, ça fait beaucoup d'azote, notamment ce sont les déjections. Et l'azote, ça fait du protoxyde d'azote, qui est, en matière de réchauffement climatique, bien pire que le CO2. Ça génère un effet de serre encore plus important que le CO2. Donc il fallait faire quelque chose. Donc ça fait maintenant plusieurs années que le gouvernement néerlandais planche sur des plans qui visent à diminuer assez fortement les émissions de protoxyde d'azote. Le problème, c'est que ça veut dire très concrètement la fermeture de 10 000 fermes.
Un tiers du cheptel. Gouvernement a dit vous réduisez d'un tiers votre cheptel.
Exactement. Et donc, bien évidemment, on comprend que pour les gens dont c'est le métier. Alors, ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, c'est que le gouvernement néerlandais, pour une fois, n'est pas radin. C'est-à-dire que les sommes qui sont données aux agriculteurs sont...
C'est vrai que c'est
très conservateur, hein, financièrement, les Pays-Bas, c'est l'Allemagne en pire. Si...
Voilà.
Mais là, ils donnent énormément d'argent. Mais ce qui est très intéressant, et là, il faut qu'on y réfléchisse politiquement, c'est-à-dire que les gens disent, mais attendez, nous, c'est pas de l'argent public qu'on veut, c'est vivre de notre travail. Ce qu'on veut, c'est que nos fermes ne ferment pas. Donc là, je crois qu'il y a quand même une réflexion à avoir très profonde au niveau européen, au niveau national, pour se dire comment on continue la transition écologique, comment on associe beaucoup mieux les métiers. Peut-être qu'il y a des domaines dans lesquels on peut aller plus vite que prévu, parce que ça va plus vite que prévu, notamment sur tout ce qui est électrification, les tracteurs, etc. Il y a des domaines sans doute sur lesquels il faut aller moins vite que prévu, parce qu'on n'y arrive pas. Les agriculteurs, par exemple, l'Europe demande de diminuer de 50% la consommation d'antibiotiques d'ici 2030. 50% en 2030.
La FNSEA dit...
On n'y arrive pas. C'est pas possible. Il y a toujours des maladies, etc. Donc là, je pense quand même qu'il y a vraiment quelque chose à revoir.
Alors, c'est l'autre épine dans le pied de Gabriel Attal. Amélie Oudéa-Castéra, catapultée à la tête du super ministère de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des JO. Eh bien, depuis sa nomination, elle enchaîne les polémiques. Et vous allez le voir dans ce sujet de Léo Seux et Benoît Thébault. Les détracteurs du gouvernement ne perdent pas une occasion de la critiquer. Reportage.
En déplacement ce jeudi à Orléans, Amélie Oudéa-Castéra tente de retrouver un semblant de sérénité. Rencontre avec des lycéennes dans un établissement technique et professionnel pour la journée nationale contre le sexisme. Quelques sourires et un message.
Vous savez, dans mon action ministérielle depuis 20 mois, j'ai fait énormément pour la promotion de la mixité, du sport féminin. Donc je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Je ne vais pas répondre plus avant sur des sujets qui ont trait à ma vie privée. Je vous remercie
beaucoup. Merci à tous.
Merci. Jugez-moi sur mon action de ministre. Je donnerai tout à cette tâche, avec les valeurs qui ont toujours été les miennes. Merci.
Merci beaucoup.
Il faut dire que ses débuts ont été cataclysmiques. Pas une journée sans polémique. Contournement de Parcoursup pour son fils, au lycée Stanislas. Rapport de commission d'enquête parlementaire au vitriol qui épingle notamment sa rémunération à la tête de la Fédération française de tennis. 500 000 euros par an tout de même. Réunion au conseil d'administration d'un groupe lyonnais, chèrement payé en jetons de présence. Choix de classe non mixte pour ses fils. Un feuilleton avec ses épisodes plus ou moins pertinents. Comme cette troisième étoile de ski, non méritée pour un de ses enfants. Dernier rebondissement, la ministre se serait immiscée dans une inspection indépendante de la Fédération française de football. Tout a commencé au lendemain de sa nomination à la tête d'un super ministère. Éducation nationale, jeunesse, sport et Jeux olympiques et paralympiques. Accompagnée par le Premier ministre, elle se rend alors dans un collège des Yvelines. Questionnée sur la scolarisation de ses enfants dans l'établissement privé Stanislas, sa réponse concernant son fils aîné met le feu aux poudres.
Vincent qui a commencé comme sa maman à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacées.
Une version contredite par le journal Libération. Deux jours plus tard, à son arrivée devant l'école publique qu'elle avait mise en cause, la voilà copieusement huée. Amélie Oudéa-Castéra exprime ses regrets.
J'ai pu
revenir sur ces excuses que je leur devais de les avoir blessés.
Les syndicats sont vent debout contre leur nouvelle ministre.
C'est normal qu'elle vienne. Maintenant, nous, ça ne nous suffira pas. On veut qu'elle démissionne quoi qu'il arrive parce qu'on sent que, bien que c'est le premier épisode d'une longue série, et on n'a pas que ça à faire.
C'est pas possible de travailler avec une ministre qui a tenu de tels propos. Sans
vous soucier. L'après-midi même, l'opposition l'étrille à l'Assemblée nationale.
Je vous le dis, vous ne méritez plus d'être la ministre de l'Éducation nationale. Quand allez-vous clore ce chapitre? Quand démissionnerez-vous?
La ministre accuse le coup, d'autant que les critiques fusent de tous bords.
Vous avez une ministre de l'Éducation nationale qui est censée assurer la qualité de l'éducation et une mission d'émancipation pour toutes et tous, pour les 10 millions d'élèves qui sont dans le public et qui est en fait une ministre de la destruction de l'éducation nationale.
Elle s'est mise toute seule dans une situation avec des explications qui sont extrêmement confuses et qui ont fait en sorte que, moi je peux le comprendre, les enseignants, surtout si elle a menti, se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas confiance dans leur ministre de tutelle et que donc maintenant, faudra prendre les décisions.
Si le président de la République lui a renouvelé sa confiance, le cas Oudéa Castéra reste pour Gabriel Attal une sérieuse épine dans le pied.
S'il vous plaît, racontez-nous ce que vous êtes dit.
Alors, Amélie Oudéa Castéra, à qui on reproche tout. Alors, c'était une blague, hein, l'histoire de la troisième étoile, c'était de l'ironie. Question téléspectateur, Anne-Charlène Bézina. La ministre Amélie Oudéa Castéra, peu convaincante dans ses explications, ne va-t-elle pas devoir démissionner après ce qu'il faut bien appeler un mauvais départ, hein?
Devoir démissionner, non. La démission, c'est un acte moral, personnel. C'est-à-dire que rien, de toute façon, n'oblige à démissionner. C'est un curseur qu'on fixe personnellement. Et c'est là toute l'originalité de nos ministres de l'Éducation face à la fronde. François Fillon, une loi très impopulaire, attend le remaniement avant de partir. À l'inverse, la loi...
Mais elle-même, elle ne peut pas se dire... Je rends mon tablier, quoi. Il y a un moment.
Ce n'est pas déjà le cas. Les entourages vous disent qu'elle est déjà franchement un peu à bout, mais qu'on la maintient. Parce qu'il faut aussi avoir en tête la solidarité ministérielle. C'est-à-dire que c'est son Premier ministre qui décide aussi s'il a envie.
Elle peut avoir, elle, envie de démissionner, mais on lui interdirait de démissionner.
Alors, je ne crois pas qu'on lui interdise de démissionner du tout. Mais moi, je crois qu'il y a une tendance à cette majorité, et surtout à Emmanuel Macron, à vouloir maintenir autour de lui les personnes auxquelles il tient, et qu'elle n'a pas encore commencé véritablement son mandat. Et que là-dedans, il y a l'idée de ne pas vouloir offrir une tête à l'opposition, de ne pas vouloir offrir une tête à l'opinion. Donc, je pense profondément qu'on est en train d'essayer de la maintenir d'office à son poste jusqu'au prochain remaniement. Néanmoins, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est devenue un petit peu la cristallisation de beaucoup des débats qui font ceux de la crise de confiance que l'on vit depuis la réforme des retraites. L'idée de gouvernants hors sol, l'idée de rémunération exorbitante, l'idée d'inégalité sociale. Et au fond, le dernier personnage politique qu'on a eu qui cristallisait autant de haine autour de lui, à mon sens, c'est François Fillon. Et ça ne lui a pas forcément porté bonheur. Donc, on va voir si elle-même devient un peu ce symbole de la colère de la population face à ses gouvernants. C'est le risque.
Gilles Bornstein, c'est Emmanuel Macron qui n'aime pas qu'on lui force la main, qui souhaite qu'elle reste en place à l'Éducation nationale. Et jusqu'à quand? Votre regard là-dessus?
Absolument, c'est tout aussi simple que ça. Il se trouve que j'ai vu pas mal de gens de la majorité cette semaine. C'est unanime. Tout le monde dans la majorité, j'ai parlé à des ministres, des anciens ministres, des députés, tout le monde veut qu'elle parte et qu'elle parte vite. C'est assez clair. Et les mêmes disent aussitôt, mais on sait qu'elle ne partira pas, parce que Emmanuel Macron, c'est pas la majorité, c'est Emmanuel Macron ne voudra pas la lâcher et voudra qu'elle reste. Ils m'ont tous dit, il y a vraiment très très peu de chances qu'elle soit remerciée à l'occasion du remaniement. Et l'un m'a dit quelque chose que je trouvais assez juste, qui m'a dit, parce qu'on disait, bon, on dit elle est hors sol. Il me disait, mais on est tous hors sol. Nous, les députés, le personnel politique, on est assez hors sol. Vous, les journalistes, vous êtes assez hors sol au sens où on gagne plutôt bien notre vie, on vit à Paris, etc. Et on ne souffre pas d'un certain nombre de réalités de la population. Le problème, c'est qu'elle ne se rend pas compte. Elle est hors sol, et manifestement, elle ne s'en rend pas compte. Quand elle dit en audition à l'Assemblée nationale, quand elle gagne 30 000 euros par mois, oh bah vraiment, par rapport à ce que je travaille, par rapport à ce que je fais, je ne suis pas bien payé, elle a le droit de le penser. Elle a tout à fait le droit de le penser. Mais enfin, le dire quand on est filmé, c'est ne pas comprendre la vie politique dans laquelle elle est.
Elle a dit à 30 000 euros.
Par rapport à ce que je travaille. Par rapport à ce que je travaille, franchement.
C'est mérité.
C'est pas terrible. Et Anne-Charlotte dit on veut la maintenir. Anne-Charlotte, pardon, dit on veut la maintenir. Quand on veut partir, on part.
C'est profondément personnel.
Ce que je vous dis là, c'est-à-dire que tout le monde veut qu'elle parte, elle doit s'en rendre compte. Si à ce point on gêne la majorité qu'on défend, on peut décider, voilà, maintenant d'aller voir le président de la République, dire, voilà, maintenant je te gêne, je n'y arriverai pas et je veux absolument partir, ne serait-ce que pour toi. Et alors, Macron ne veut pas qu'elle parte et elle, à ma connaissance, n'a pas dit non plus qu'elle voulait partir. Quelqu'un qui veut vraiment partir, on ne peut pas le retenir.
Alexandre Schwarzbaud, est-ce que pour Gabriel Attal, comme on dit, c'est un boulet, pardonnez-moi l'expression. Et est-ce que, quelque part, cette colère agricole est en train de lui sauver la mise? Parce que ça y est, elle peut faire le pari qu'on soit passé à autre chose.
D'une certaine façon, oui, on peut éventuellement. Mais je pense quand même que... Pourquoi il était constitué, ce gouvernement? Quel est le but de ce gouvernement? On l'a tous dit et redit. C'est en prévision des européennes pour faire contrepoids à la montée en puissance de Jordan Bardella et donc avoir à la tête du gouvernement un jeune homme ambitieux, à peu près comparable en termes de génération avec Jordan Bardella, pour essayer de faire... c'est un gouvernement de guerre en prévision des européennes. Si ce gouvernement, toutes les semaines... est plombé par à la fois des maladresses, des mensonges, des conflits d'intérêts comme Amélie Oudéa Castéra l'a montré depuis le début, ça brise ça fout tout en l'air, si vous me permettez l'expression. Donc c'est totalement contre-productif. Donc moi, la question, c'est pas va-t-elle devoir démissionner, c'est qu'elle aurait dû démissionner pour le bien collectif du gouvernement. Alors certes, je conçois que c'est dur parce que c'est pas facile de démissionner d'un tel poste, surtout quand on vous a propulsé comme ça à un tel poste qui est en plus celui qu'occupait le Premier ministre. Enfin, c'est vraiment terrible. C'est-à-dire qu'elle a ruiné en quelques jours, elle a ruiné tout le travail qu'avait mené Gabriel Attal avec les profs et les syndicats d'enseignants pour essayer de rebâtir un tout petit peu de confiance. Et ça, elle l'a ruiné en quelques jours et quelques semaines. Rien qu'à cause de ça, je pense qu'elle ne peut pas continuer à ce poste, parce qu'il n'y a plus aucune confiance, il n'y a plus aucune crédibilité, et ça ruine le côté cabinet de guerre mis en place par Emmanuel Macron. Mais en effet, Emmanuel Macron déteste qu'on lui mette le couteau sous la gorge. Il déteste qu'on lui force la main. Et donc, rien que pour ça, il ne va pas vouloir la lâcher.
Alors, c'était peut-être un peu ambitieux aussi de faire un ministère qui englobe l'éducation nationale, la jeunesse, les sports et les JO, accessoirement.
Et c'est une administration très difficile à diriger, l'éducation nationale. Surtout quand on est dans un gouvernement qui est factuellement un gouvernement de droite. Il y a des administrations qui sont beaucoup plus... Bercy, par exemple, quand vous êtes ministre de l'économie...
C'est-à-dire que les syndicats vous attendent avec un fusil quand vous êtes...
C'est beaucoup plus que les syndicats, très honnêtement. C'est les syndicats... Et les personnes, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses tout en étant... Jean-Michel Blanquer, par exemple, on peut discuter du fond, mais a fait Parcoursup, a fait une réforme du bac, donc il a fait des réformes qui étaient très, très importantes. Et là, justement, ce qui m'embête un peu dans ces affaires, c'est qu'on ne reparle plus du fond, alors même que dans sa conférence de presse, le président de la République a annoncé des choses très précises sur l'éducation nationale. Je vous donne deux exemples. Le doublement des heures de cours d'instruction civique et l'introduction des cours de théâtre. Ça pose des difficultés. C'est très sympathique sur le papier. Ça pose des questions... redoutable. Est-ce que c'est en plus dans des programmes qui sont déjà surchargés et qui sont les plus lourds du monde? Est-ce que ça vient remplacer d'autres disciplines, le théâtre? Comment vont réagir les profs? Je dis n'importe quoi, hein, mais les profs d'art plastique, si on substitue du théâtre à l'art plastique, vous voyez, donc ce sont quand même des sujets qui sont extrêmement, extrêmement difficiles. Et alors pour elle, la pauvre, honnêtement, ça va être très compliqué de faire ça.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.